Vous écoutez, on lit pour vous.
Découverte du seul récif de corail vivant connu au Canada. Un texte de Nono Chen, paru le 12 mars 2024 dans La Presse. Tout a commencé avec des informations provenant de la Première Nation locale concernant une bosse au fond de la mer, où les poissons aimaient se retrouver. Cela a mené à la découverte du seul récif de corail vivant connu au Canada. Lors de ce qui devait être la dernière plongée de l'expédition, l'équipe a découvert un écosystème magnifique et prospère à environ 200 mètres de profondeur. Vous allumez les projecteurs et vous réalisez que vous êtes la première personne à voir tout ça. De magnifiques roses, violets et jaunes, des crevasses, des monticules. Et une fois que vous voyez au-delà des coraux, vous réalisez qu'il y a d'autres animaux là-dessus, a raconté Mme Duprise, responsable du programme d'écologie des eaux profondes à Pêche et Océan Canada. Ensuite, on commence à voir les anguilles et les poulpes ou les poissons de roche qui entrent et sortent du récif corallien. Et même lorsque nous pointons la caméra vers le haut, on peut voir les bancs de poissons au sommet. Partout où on regarde, c'est la vie. Toutes les données scientifiques et logiques du monde disent qu'il ne devrait pas y avoir de récif de corail à cet endroit. Mais les Premières Nations savaient qu'il y avait quelque chose là, a-t-elle déclaré. Le ministère des Pêches a annoncé la semaine dernière qu'il avait fermé la zone de la côte centrale de la Colombie-Britannique au-dessus du récif de corail à toutes les pêches commerciales et récréatives de contact avec le fond, y compris le chalut pélagique. Le ministère a déclaré que la fermeture pour une durée indéterminée était basée sur une découverte scientifique importante, car cette zone, bien que petite, est un récif unique au monde qui est très susceptible d'être endommagé, notamment par les engins de pêche. Il s'agit du récif corallien connu le plus septentrional de tout l'océan Pacifique, précise le ministère. Important pour l'écosystème. Madame Duprise se souvient clairement de l'excitation lorsque son équipe a découvert le récif pour la première fois. C'est assez remarquable de visiter ces lieux pour obtenir des visuels et ressentir ce paradoxe. C'est loin, c'est un autre monde, mais c'est notre monde, a-t-elle raconté. Mike Reed, directeur des pêches pour le département de gestion intégrée des ressources de la nation Heiltsuk, a déclaré que sa nation avait toujours su que quelque chose soutenait les poissons dans la région, mais ne savait pas quoi exactement. Le récif L'Ophelia est très important pour l'écosystème, pour la biodiversité de cette zone spécifique. Il contribue à la santé globale de cette zone, a déclaré M. Reed. Le récif fournit un habitat et un refuge à la faune marine, permettant la création de colonies de poissons et d'autres créatures, a ajouté Mme Duprise. Ce récif corallien a des vallées et des monticules, ellipses. Les monticules fournissent des aires de reproduction. Ainsi, vous avez tous les bancs de petits poissons qui vivent et se cachent de leurs prédateurs. Ensuite, il y a les gros poissons. Nous avons des espèces particulièrement préoccupantes et en voie de disparition qui utilisent ce récif de corail comme nourriture, abri et habitat, a déclaré la chercheuse. Madame Duprise ajoute toutefois qu'elle a trouvé des coraux morts autour du récif, ce qui pourrait être dû au changement climatique. C'est une très grande préoccupation, et l'une des raisons pour lesquelles il est si important d'arrêter la pêche dans cette zone, c'est que nous devons éliminer tout le stress possible pour donner à ce récif l'opportunité de survivre aux changements que nous ne pouvons pas contrôler. Un changement de température d'un degré pourrait être dévastateur pour le récif, a-t-elle précisé. Larry Davis, porte-parole de la région du Pacifique à Pêche et Océan Canada, a déclaré que les agents des pêches de la Direction de la conservation et de la protection patrouillent régulièrement au niveau des refuges marins, des zones protégées et des zones fermées pour faire respecter les règlements. Nous utilisons diverses méthodes d'application fondées sur le renseignement, notamment la surveillance aérienne, océanique, fluviale et terrestre, ainsi que des patrouilles nocturnes et secrètes pour surveiller activement les activités de pêche dans tous les secteurs et garantir le respect des lois, a précisé le ministère. Madame Duprise a déclaré que la côte pacifique du Canada est unique au monde, avec une nature et une faune que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Cela nous donne la possibilité d'avoir autant de vie dans nos profondeurs marines et nous sommes très chanceux, a-t-elle déclaré. Nous sommes tellement gâtés sur notre côte avec nos fonds marins et j'espère que grâce à des médias comme celui-ci, les Canadiens commenceront à sentir que les fonds marins sont aussi canadiens que les rocheuses. C'était « Découverte du seul récif de corail vivant connu au Canada », un texte de Nono Chen paru le 12 mars 2024 dans La Presse.
Fraude envers les 55 ans et plus, tout ce que vous devriez savoir. Un texte de Maryse Guénette, paru le 15 janvier 2024 dans Avenue.ca. Au cours des années 2010, la Sûreté du Québec et des organismes comme le réseau FADOC ont lancé des initiatives pour sensibiliser les aînés au sujet des fraudes et les outiller pour y faire face. Et pour cause. Selon les données du Centre antifraude du Canada, la fraude à l'égard des aînés et des personnes vulnérables est en nette augmentation au pays. En 2022, elle aurait causé, chez ses victimes, des pertes de quelque 9,2 millions de dollars. Le Québec est l'une des provinces les plus touchées, avec des pertes de plus de 732 000 $. Coup d'œil sur les fraudes les plus courantes et la façon de s'en protéger ou d'y réagir. Disons-le d'emblée, si tant d'aînés tombent dans les pièges des fraudeurs, c'est que ces derniers sont nombreux et souvent difficiles à éviter. Même les plus aguerris peuvent se faire prendre. Car les fraudeurs sont très habiles. Ils parviennent à déjouer les afficheurs téléphoniques et à créer des sites Internet en tout point semblables à ceux d'organisations connues. De plus, ils sont très gentils et agissent de manière très professionnelle. Moi, j'ai entendu certains enregistrements et je pense que je me serais fait prendre, dit la sergente Stéphanie Deschênes, coordonnatrice locale en police communautaire à la Sûreté du Québec. Et le web est un terrain de prédilection. Depuis la pandémie, les aînés sont de plus en plus branchés, dit Anne Bianca-Morissette, analyste à la direction de l'éducation financière de l'Autorité des marchés financiers, AMF. Et les fraudeurs se sont adaptés. Si les fraudeurs visent particulièrement les personnes âgées, c'est qu'ils les considèrent comme étant des cibles de choix. Ils présument qu'elles ont des sous, qu'elles sont isolées et qu'elles font facilement confiance à autrui, dit Mme Deschênes. Et le fait est que, même si les aînés sont très actifs sur Internet, ils sont souvent peu informés des risques liés aux technologies. Les arnaques les plus courantes. Selon la Sûreté du Québec, SQ, trois fraudes font actuellement beaucoup de ravages, soit la fraude des grands-parents, appelée aussi fraude du petit-fils, la fraude du faux conseiller et la fraude amoureuse. La fraude des grands-parents. Vous recevez un appel d'une personne qui se fait passer pour votre petit-fils ou votre petite-fille ou qui affirme appeler en son nom. Elle vous dit que votre petit-fils est dans une situation hasardeuse. Il a eu un accident, il est détenu à l'étranger ou il doit être hospitalisé, par exemple, et que vous devez lui envoyer de l'argent. Vous devez agir vite et surtout n'avertir personne. La fraude du faux conseiller. Un supposé représentant de votre institution financière vous contacte. « Il y a un problème avec votre carte de débit, » vous dit-il. « Et si vous ne l'aidez pas à rectifier la situation, vous risquez de ne plus avoir accès à votre argent. » Après vous avoir demandé de dévoiler certains renseignements, dont votre numéro d'identification personnelle, NIP, il envoie un messager chercher votre carte pour qu'elle puisse être réinitialisée. Dans certains cas, comme ceux dévoilés à la une de La Presse en décembre dernier, il peut aussi vous amener à faire vous-même des retraits. La fraude amoureuse. La fraude amoureuse, elle, se bâtit au fil des échanges que vous avez avec une personne que vous avez rencontrée en ligne et avec laquelle vous avez développé des affinités, voire une relation amoureuse virtuelle. Un jour, cette personne vous avoue qu'elle aimerait venir vous rencontrer, mais que cela lui est impossible, faute d'argent. Évidemment, si vous acceptiez de payer son billet d'avion, cela pourrait l'aider. Dans certains cas, elle vous demandera plutôt de l'argent pour soutenir un parent malade. Notons que, selon Julie Silveira, conseillère en programmes sociaux au réseau FADOC, la fraude amoureuse se classe au deuxième rang des types de fraudes au Canada qui coûtent le plus cher aux victimes. Dans le cas de ces trois arnaques, les fraudeurs jouent habilement avec les émotions de leurs victimes. Lorsqu'une intervention d'urgence est prétendument requise, ils la soumettent à énormément de stress, ce qui l'empêche de réfléchir. Et lors de la fraude amoureuse, ils comptent sur l'attachement et la confiance développés à leur égard. Même si le fraudeur a des intentions malveillantes, la victime, elle, a développé des sentiments véritables, dit Mme Silveira. La fraude marchande et la fraude à l'investissement. La clinique de cybercriminologie, une initiative d'étudiants et de professionnels de l'École de criminologie de l'Université de Montréal, qui a vu le jour grâce au chercheur Benoît Dupont, titulaire de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité, pointe du doigt deux autres fraudes dont sont souvent victimes les 50 ans et plus, la fraude marchande et la fraude à l'investissement. La fraude marchande. On annonce sur Internet des produits susceptibles d'être convoités par les aînés. Par exemple, des produits de confort de bonne qualité qui seraient prétendument faits au Québec, comme des chaussures orthopédiques ou des vêtements chauds. Les prétentions des fraudeurs sont, bien sûr, complètement fausses, dit Hakim Laniel Lanani, cofondateur de la clinique de cybercriminologie et directeur des opérations. Les produits qu'ils vendent proviennent d'Asie et sont de piètre qualité. La fraude à l'investissement. Une publicité ou une sollicitation affirme que les investisseurs qui optent pour un produit financier donné, généralement de la crypto-monnaie et parfois des produits négociés sur le Forex pour Foreign Exchange, pourront obtenir des rendements impressionnants. La publicité dirige les curieux vers le site d'un faux conseiller financier où des articles journalistiques, faux eux aussi, livrent le témoignage de personnalités connues dont on a usurpé l'image à leur insu, qui affirment avoir bénéficié de cet investissement. Pour obtenir les rendements promis, il faut cliquer sur un lien, puis remplir un formulaire de contact. Si vous le faites, un faux conseiller communiquera avec vous quelques jours plus tard. C'est alors que commencera une relation s'apparentant à une réelle relation conseiller-client. Tout est mis en place pour que la personne, qui croient faire affaire avec un vrai conseiller sur une vraie plateforme de courtage investissent de plus en plus sans se poser de questions, dit M. Laniel Lanani. Il s'écoule généralement de 2 à 4 mois avant que la victime se rende compte du stratagème. Elle a alors perdu beaucoup d'argent. On s'en doute, les fraudes peuvent parfois prendre une allure un peu différente que celle que nous avons présentée, voire se jumeler. Ainsi, une personne rencontrée sur Internet dans un but amoureux pourrait vous faire miroiter les avantages d'un investissement prometteur. Et une fraude à l'investissement pourrait être initiée par l'ami d'un ami ou par un professionnel en services financiers à l'éthique douteuse. En matière de fraude, les frontières sont floues et les possibilités sont infinies. Haine et avisé et autres sources d'informations. Vous voulez être en mesure de reconnaître les fraudes et de les contourner? De nombreuses ressources et informations sont accessibles pour vous y aider. En voici 3 qui ont attiré notre attention. Vous écoutez « Fraude envers les 55 ans et plus », tout ce que vous devriez savoir. Un texte de Maryse Guénette, paru le 15 janvier 2024 dans avenue.ca. Haine et avisé, un programme du réseau FADOC. En 2010, un CIUS de la région de Montréal lance l'idée du programme Aîné avisé et le met sur pied en collaboration avec le réseau FADOC et la Sûreté du Québec. Le but est d'offrir aux aînés des rencontres d'informations et d'échanges sur la maltraitance et les fraudes. L'idée a fait boule de neige et le réseau FADOC, qui assure depuis la coordination du programme, l'a étendu aux 16 régions du Québec. Près de 14 ans plus tard, le programme a toujours le vent dans les voiles et reste très pertinent, car les aînés sont de plus en plus nombreux à utiliser le web et les fraudeurs de plus en plus habiles. Depuis son lancement, Aînés avisés a touché plus de 70 000 personnes. Principalement présentés dans les résidences privées pour aînés, RPA, mais aussi à des organismes des communautés qui en font la demande, le programme, un peu au ralenti pendant la pandémie, a retrouvé sa vitesse de croisière et sensibilise ainsi près de 5 000 aînés par année. Les séances sont animées par une équipe formée d'un employé et ou d'un bénévole du réseau FADOC, accompagné d'un policier de la Sûreté du Québec ou d'un service de police municipale. Les contenus du programme évoluent et s'adaptent aux nouvelles formes de fraude ou de technologie, explique Julie Silveira. D'une durée de 60 minutes, la conférence aborde les principales formes de fraude et les pratiques prudentes à adopter pour les éviter, de même que les ressources disponibles. Les 3 clés du programme sont sensibiliser, prévenir et sécuriser. On y utilise des capsules vidéo pour fournir de l'information et susciter des échanges. On y distribue également un répertoire des ressources qu'on peut également consulter en ligne sur le site du réseau FADOC. Si vous souhaitez organiser une séance d'information dans votre communauté ou organisme, vous pouvez contacter Aînés avisés. Séance de la Sûreté du Québec. Outre sa participation au programme Aînés avisés, la Sûreté du Québec a mis sur pied des séances d'information intitulées « Prévenir la fraude, ça débute avec vous ». Elles sont offertes depuis 2023 dans les municipalités situées sur son territoire. On y traite des 3 fraudes les plus courantes et des manières de les éviter. Vous n'habitez pas sur le territoire de la SQ? Des séances d'information sont aussi données par plusieurs services de police municipaux. Informez-vous auprès de votre poste de police locale. On peut aussi trouver des informations pertinentes sur la prévention des fraudes sur le site de la Sûreté du Québec. Des ateliers. La clinique de cybercriminologie offre pour sa part des ateliers d'information et de l'accompagnement. Ceux-ci sont donnés principalement dans des organismes à but non lucratif, OBNL, et dans des organismes communautaires, ainsi que dans d'autres types d'organisations, comme des bibliothèques. Faire un signalement ou aller chercher de l'aide. Que vous ayez été témoin ou victime d'une fraude, signalez la situation à votre poste de police locale ou à la Sûreté du Québec, au Centre antifraude du Canada, ainsi qu'à l'AMF. Il s'agit d'une fraude financière. Votre signalement leur permettra d'avoir connaissance des fraudes qui existent et de mettre à jour leurs statistiques. Il permettra également aux décideurs de connaître l'ampleur des différentes fraudes commises et d'agir en conséquence. Signalez aussi la situation sur la plateforme Fraude Alerte de la clinique de cybercriminologie. Comme elle est bien référencée, votre geste permettra d'informer non seulement les personnes qui la consultent, mais aussi celles qui utilisent les moteurs de recherche. Les fraudeurs sont parvenus à vous soutirer des renseignements personnels ou de l'argent? Communiquez avec votre institution financière. Selon la situation, elle saura vous indiquer les mesures à prendre. Communiquez également avec les bureaux de crédit, Equifax et TransUnion, afin de faire mettre une alerte sur votre dossier. Vous avez besoin d'aide pour effectuer ces démarches ou encore de soutien? Communiquez avec la clinique de cybercriminologie, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, CAVAC, ou l'AMF. Dans le cas de fraude financière, cette dernière pourra vous aider à minimiser vos pertes. Le fraudeur était un conseiller en services financiers dûment enregistré? Si votre demande est admissible, vous pourriez bénéficier d'une compensation provenant du Fonds d'indemnisation des services financiers de l'AMF. Mieux vaut prévenir. Pour ne pas tomber dans les pièges qui se présentent à vous, voici une liste de comportements à suivre. On vous appelle? Ne vous fiez pas à votre afficheur. Même si le nom de votre institution financière y est inscrit, votre correspondant pourrait être un fraudeur. Au téléphone ou en ligne, on vous demande de divulguer des renseignements personnels ou d'envoyer de l'argent? Mettez fin à la communication ou appelez l'entreprise pour laquelle votre interlocuteur affirme travailler pour vérifier le bien-fondé de sa demande. Ce faisant, n'utilisez pas les coordonnées qu'il vous a fournies. Elles pourraient être erronées. Vous recevez un texto ou un courriel d'une source que vous ne connaissez pas? Ne répondez pas. Et si on vous demande de cliquer sur un lien, ne le faites pas. Il peut s'agir d'hameçonnage, soit d'une technique qui permet aux fraudeurs d'obtenir des renseignements personnels à votre sujet. Assurez-vous que les renseignements que vous publiez sur les réseaux sociaux ne puissent être vus que par des personnes auxquelles vous avez confiance. Les arnaqueurs pourraient se servir des renseignements que vous y dévoilez, dit Mme Silvera. Méfiez-vous des personnes qui s'intéressent à vous, sur le plan amical ou sentimental, mais qui ne peuvent vous rencontrer que virtuellement. On vous invite à investir sur une plateforme de courtage en ligne? Une personne qui affirme être un conseiller en services financiers vous fait miroiter des revenus mirobolants? Vérifiez si le nom de l'entreprise et du professionnel figure au registre des entreprises et des individus autorisés à exercer, qui se trouve sur le site de l'AMF. Il s'agit d'une obligation pour avoir le droit de pratiquer au Québec ou appeler le centre d'information de l'AMF. Vous vous questionnez sur la fiabilité d'un site Internet? Utilisez l'outil Scamdoc. fr.scamdoc.com afin de connaître son score de viabilité ainsi que certains renseignements pertinents, comme l'année de création du site. Si on vous dit que le site existe depuis 2 mois, alors qu'on prétend qu'il a vu le jour il y a plusieurs années, il faudra vous méfier, dit M. Laniel Lanani. Au moindre doute, communiquez avec votre poste de police locale, la Sûreté du Québec et ou l'AMF, si vous craignez une fraude financière. Et agissez rapidement. Quelques 50% des gens qui communiquent avec nous le font alors qu'ils ont déjà un doigt dans l'engrenage, déplore Mme Morissette. Ressources: Clinique de cybercriminologie. clinique-cybercriminologie, en un mot, .ca. aineavisé.ca. Sûreté du Québec, sq.gouv.qc.ca. Centre antifraude du Canada, antifraude.ca, l'Autorité des marchés financiers, lautorite.qc.ca, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, CAVAC, cavac.qc.ca. C'était Fraude envers les 55 ans et plus, tout ce que vous devriez savoir. Un texte de Maryse Guénette, paru le 15 janvier 2024 dans avenue.ca.